Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique sera l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale au cours des prochaines décennies, mais cette croissance devra être durable, inclusive et résiliente. La RSE sera-t-elle un simple outil de conformité ou le socle d'un nouveau modèle africain de développement? Voici donc cette dernière partie concernant la RSE, sur quelle position l'Afrique aujourd'hui a-t-elle et quelle Afrique durable à l'horizon 2035, avec notre invité, M. Modibo Makalou, économiste mais aussi expert en développement pour l'Afrique. Merci encore, M. Makalou, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir débattre avec vous sur la RSE vue de l'ensemble et de manière générale dans la perspective de 2035 avec l'Afrique.
Je vous en prie.
Alors, quelle place aujourd'hui par rapport aux différents argumentaires que nous avons donnés par rapport à la première partie, la deuxième aussi, et surtout cette partie où il s'agit de se projeter vers l'avenir, quelle place les entreprises africaines doivent-elles occuper dans l'atteinte des objectifs de développement durable?
Mais vous savez, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 sont quand même le pilier du développement durable et donc on peut même dire de la RSE. Et évidemment, vous avez ces 17 objectifs de développement durable le cap est fixé pour 2030, mais évidemment, ces objectifs se complètent souvent, sont interchangeables et sont quand même des objectifs auxquels la plupart des pays, en tout cas en Afrique surtout, ont quand même défini des politiques et des stratégies pour atteindre les objectifs. Évidemment, cela demande des moyens, cela demande surtout la volonté politique et évidemment la stratégie mise en place pour atteindre les objectifs fixés.
Et par rapport à cette stratégie, comment d'ailleurs renforcer les compétences RSE auprès des dirigeants africains?
Oui, c'est un aspect très important, comme vous le dites. Évidemment, je pense qu'il est important que, au niveau des politiques publiques, qu'on tienne compte des défis environnementaux essentiellement. Et évidemment, les défis politiques et sociaux, et les défis économiques et sociaux sont importants aussi. Mais vous voyez, l'environnement joue un rôle très important en Afrique. Et comme je l'ai dit, il faut que nous préservions cet environnement. Nous avons le second plus large continent après l'Asie. Mais ce continent, il faut le préserver. Et si vous, comme je vous l'ai dit, il y a 971 millions d'Africains qui n'arrivent pas à faire de la cuisson avec une source d'énergie moderne, bien évidemment, cela ne va pas permettre de préserver l'environnement. Ayant le continent aussi le plus chaud de la planète, bien, cela constitue des défis aussi. Cela veut dire que les sources d'énergie seront quand même sollicitées. Et qu'il faut peut-être aller vers les énergies renouvelables. Le soleil est disponible en Afrique. Les coûts des énergies renouvelables, surtout du matériel et des équipements solaires, ont beaucoup baissé ces 10 dernières années. Mais les Africains n'en profitent pas encore. Et la plupart des pays n'ont même pas de politique énergétique en général et de politique d'énergie renouvelable en particulier.
En particulier, et parlons de cette particularité, les jeunes générations sont-elles aujourd'hui en train de transformer d'ailleurs la culture entrepreneuriale africaine au vu aujourd'hui de cette nouvelle dynamique qui s'inscrit dans l'horizon 2035?
Oui, les jeunes essayent, mais vous savez, les jeunes ont des difficultés aussi, c'est l'accès aux ressources. Les jeunes ont des idées, mais comment lever le capital, comment entreprendre sans ressources financières? Et on peut avoir des idées, le cadre réglementaire est aussi là. Vous savez, pendant très longtemps, ce sont nos États qui... l'État était le commerçant aussi, c'est l'État qui employait, c'est l'État aussi qui est le premier vendeur et le premier acheteur. Je pense qu'il faut changer de paradigme par rapport à tout cela et comment l'État peut... si nous voulons que la RSE soit une réalité, aller vers... nos politiques d'investissement, que ce soit l'industrie, mais aussi les secteurs miniers, les ressources minérales, voir un peu comment on peut connecter davantage ces secteurs aux fortes croissances, les télécoms, à l'économie, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, comment elle peut contribuer à travailler aussi avec ces grandes entreprises. Je crois qu'il faut un levier, il faut quand même une courroie de transmission, il faut un pont par rapport à tout cela, et c'est l'État qui peut établir ce pont, soit par la législation, mais aussi en créant des facilités qui permettent aux jeunes et aux jeunes entreprises de profiter des opportunités qui existent.
Vous avez parlé de l'accès hein, à ces terres, à ces ressources. Aujourd'hui aussi, les universités et grandes écoles forment-elles suffisamment, d'ailleurs, aux enjeux du développement durable ?
Ben, écoutez, nous avons quand même beaucoup de difficultés. Le Fonds monétaire international estime qu'il y a entre 13 et 15 millions de jeunes africains qui sortent des universités et des écoles chaque année, mais il n'y en a que 3 millions qui ont des emplois. Et quel emploi? Est-ce que ce sont des emplois durables? Est-ce que ce sont des emplois décents? Tout cela se constitue des défis parce qu'il ne s'agit pas de créer des emplois pour des emplois. Mais tant que nous n'allons pas entreprendre cette transformation structurelle, tant que nous n'allons pas essayer de transformer ce défi démographique en dividende démographique, et pour cela, ça demande une vision stratégique pour la transformation structurelle et économique. Et c'est cela, c'est augmenter la productivité et la compétitivité de nos économies, réduire les coûts des facteurs de production, renforcer le capital humain et renforcer aussi la recherche, la technologie, l'innovation, le transfert de compétences, en renforçant les partenariats avec les pays qui sont leaders en cette matière, délocaliser, créer des zones économiques industrielles, spéciales, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment une véritable stratégie d'industrialisation de l'Afrique. Mais pour cela, je pense qu'on peut on peut faire tout cela à travers la zone de libre-échange continentale, mais aussi à l'intérieur des communautés économiques régionales. Parce que, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt d'un seul pays d'entreprendre ces politiques. Mais si, dans les regroupements sous-régionaux, on entreprenait ces politiques et qu'on harmonisait les législations et qu'on faisait des économies d'échelle pour augmenter, par exemple, les échanges intracommunautaires, parce que, vous savez, les échanges intra-africains sont parmi les plus bas au monde. Nous sommes à environ 15% d'échanges entre pays africains, alors qu'en Asie, ils sont au-delà de 60% par rapport à cela. Donc, et les études empiriques aussi ont prouvé que chaque fois que les Africains échangeaient entre eux, se faisaient le commerce entre eux, ils avaient tendance à transformer ces produits, à ajouter de la valeur. Et quand on ajoute de la valeur, on augmente les revenus de tous les intervenants, mais aussi on crée des emplois.
On crée des emplois, on crée aussi des opportunités pour l'Afrique, pour les jeunes, mais aussi pour le monde. C'est à présent le moment de passer à notre minute RSE avant de revenir avec notre invité, M. Modibo Makalu, toujours dans cette perspective de parler de cette troisième partie concernant quelle Afrique durable à l'horizon 2035. C'est tout de suite la minute RSE.
Cette semaine, l'actualité confirme que la responsabilité sociétale des entreprises prend une nouvelle dimension en Afrique. En Côte d'Ivoire, la RSE fait son entrée à la télévision avec une émission entièrement dédiée aux initiatives responsables et aux critères ESG. Un signe que le développement durable ne concerne plus seulement les entreprises, mais devient aussi un sujet de sensibilisation pour le grand public. En République démocratique du Congo, experts, dirigeants et investisseurs se sont réunis autour de la finance durable et de la gouvernance responsable. L'objectif est clair, aider les entreprises africaines à mieux intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour attirer davantage d'investissements. À l'échelle mondiale, les épisodes de chaleur extrême de cet été rappellent une réalité. Le changement climatique est désormais un enjeu économique autant qu'environnemental. Les entreprises sont appelées à mieux protéger leurs salariés, adapter leurs infrastructures et accélérer leur transition vers des modèles plus résilients. La RSE n'est donc plus une simple politique d'entreprise, elle devient un outil de compétitivité, d'innovation et de création de valeur au service d'une croissance plus durable. C'est Minuit RSE. À la semaine prochaine pour un nouveau regard sur les initiatives qui font avancer l'économie responsable.
De retour, M. Makalu, vous avez parlé tout de suite de cette ouverture des jeunes, mais aussi des opportunités par rapport aux autres pays. Vu bien évidemment de cet angle, l'Afrique peut-elle devenir un leader mondial de l'économie verte ?
Oui, absolument. Absolument. Et nous en avons les moyens, mais encore faut-il que nous ayons la vision. Je pense que c'est essentiel. Parce que l'économie verte, c'est quand même, ça veut dire qu'il va falloir que nous nous détournions de plus en plus des énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. Et tenez-vous bien, déjà, pour la transition écologique et énergétique, nous avons quand même 40% des minerais critiques qui sont indispensables pour cela. Mais encore, faut-il que nous soyons des acteurs majeurs en allant vers cette transformation structurelle, parce que ce soit le cobalt, le lithium, l'uranium, le cuivre, tout cela est exporté pour le moment en tant que matière brute. Nous ne bénéficions pas de cette transformation structurelle, de cette valeur ajoutée qui va nous permettre d'avoir des produits semi-finis et des produits finis pour ensuite les exporter. Et comme je l'ai dit, c'est cela qui augmente la valeur ajoutée et qui augmente les revenus et qui crée des emplois. Ce défi n'est pas encore relevé et l'Afrique jusqu'à aujourd'hui se contente d'être dans l'économie de traite, à exporter des matières premières et à importer des produits manufacturés. Et il faut que cela change.
Et pour parler d'ailleurs de cette création d'emplois, la réplique vient au bon moment. Quels secteurs offriront, selon vous, d'ici 2035, les plus fortes opportunités d'emploi vert, bien évidemment, dans les prochaines années?
Ben, écoutez, moi, je pense que actuellement, avec cette que nous avons, je pense que le secteur des services, je pense que la révolution numérique, nous devrions vraiment prendre avantage de tout cela, parce que vous savez, les jeunes sont des férus de nouvelles technologies. Créer des contenus et vous savez, aujourd'hui, les économies les plus prospères, ce ne sont pas les économies où on fait de la production industrielle, ce sont les économies où on crée des services à haute valeur ajoutée, que ce soit des services financiers, que ce soit des contenus à haute valeur ajoutée des technologies, etc. Et vous voyez tout ce qui est cet engouement pour l'intelligence artificielle, les chips, les mémoires, tout cela. C'est cela l'enjeu pour l'économie actuelle, pour la 7e, 4e révolution industrielle. Et pour le moment, l'Afrique est plutôt pas présente, l'Afrique est absente. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a cette stratégie africaine qui est en train d'être élaborée au niveau de l'Union africaine, mais cela ne suffit pas. Il faut que les pays soient impliqués et que les pays se mettent ensemble pour réfléchir ensemble et agir peut-être dans leur contexte particulier, parce que l'Afrique, elle est très diverse. Vous avez des pays très avancés, vous avez des pays moins avancés, vous avez des petits pays moins peuplés, vous avez des grands pays peuplés. Donc, mais je pense que, grosso modo, en mettant les efforts ensemble, en créant des énergies d'échelle et en allant vers ce marché intérieur africain, parce que c'est l'union qui fait la force, et en réfléchissant ensemble et en agissant localement, je pense qu'on peut quand même faire de grands progrès par rapport à tout cela et voir un peu comment nous pouvons coopérer, créer des partenariats aussi avec d'autres entités hors du continent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui quand même sont comme en train de se venir vers l'Afrique, parce qu'on constate que cette jeunesse, elle est présente et qu'elle peut être un acteur important de cette révolution industrielle, cette 4e révolution industrielle, la révolution numérique.
Et donc, pour cela, il faut avoir une bonne orientation, une bonne politique, mais aussi voir les perspectives de l'avenir concernant la RSE. Et d'ailleurs, la question qui se profile au vu de cela, bien évidemment, M. Makalou, c'est quelle est votre vision, vous, personnellement, de l'entreprise africaine responsable à l'horizon 2035?
Et je pense qu'il faut cette législation, il faut cette réglementation qui dépend des autorités publiques, des politiques publiques, mais je pense qu'il est dans l'intérêt des entreprises africaines d'aller vers cette responsabilité sociale, mais en même temps, il faut quand même que nous tenions compte des défis auxquels les différentes entreprises font face. Mais je pense que l'un dans l'autre, je pense que c'est le secteur privé qui sera le moteur du développement en Afrique, mais avec l'aide des États. Donc il faut une coopération renforcée, il faut renforcer ce dialogue public-privé, il faut renforcer cette coopération publique-privée pour que le secteur privé soit le moteur du développement.
Le moteur du développement et la responsabilité sociétale des entreprises n'est plus donc une option. Elle devient progressivement le langage commun des investisseurs, des consommateurs, des institutions et surtout des citoyens. Pour l'Afrique, la RSE représente une opportunité historique, celle de construire une croissance plus inclusive, plus résiliente et davantage actrice et créatrice de valeur. L'avenir du continent dépendra donc sans doute moins de ses ressources naturelles que de sa capacité à transformer ses entreprises en véritable secteur de développement durable. Merci encore à vous, Monsieur Makalou, de nous avoir servi d'expert et aussi de guide dans cette aventure en trois parties sur l'avenir et les perspectives de la RSE en Afrique.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Tonkala.
Merci également à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis dans votre émission Planète Business. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée aux grands défis économiques de l'Afrique.